mis en application. Là.
Bon, on revient à Nicolas Maduro qui est dans une prison de Brooklyn qui a été capturé par les Américains. Farnell, on s'échangeait des textos hier, puis tu me disais, Jeff, va falloir que je te parle de la doctrine Monroe pour commencer, pour bien mettre la table et expliquer pourquoi ceci est arrivé.
Ouais, puis même avant qu'on commence ça, je pense qu'il y a deux mises en garde qu'il faut que tout le monde ait en tête. La première, c'est qu'on parle de relations internationales. En relations internationales, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants, il y a juste des gens qui ont des moyens et des intérêts. Alors, écartons l'espèce d'idée facile de c'est qui le bon, c'est qui le méchant, je prends pour qui. Ça ne fonctionne pas comme ça.
C'est pas de la lutte, là.
C'est pas de la lutte, exactement. Là. Si vous voulez aller voir le NSPW, là, vous pouvez aller faire ça, mais c'est pas ça qu'on est en train de faire présentement. Deuxième chose, puis ça, j'en suis très conscient, c'est qu'on voit juste la pointe de l'iceberg. Et là, il y a plein de gens qui vont aller sur Internet qui vont dire « Ah oui, mais tu sais, il y a eu telle opération clandestine, on ne le sait pas, vous pouvez spéculer comme vous voulez. » Moi, je vais juste parler de choses qu'on sait, qui ont été confirmées par des sources relativement fiables ou des sources officielles. Alors, gardons ça en tête, là, OK, je sais qu'il y a plein de gens qui vont vous dire « Ah oui, mais t'as pas dit que ou t'as un parti pris. » Non. Alors oui, il faut commencer en 1823 pour comprendre ce qui se passe au Venezuela.
Alors, on remonte loin, il y a 200 ans.
Et avec le président James Monroe, qui a été le premier à articuler ce qui est devenu plus tard une politique officielle des États-Unis. Ça, c'est une position politique, c'est pas une position légale, c'est pas une question de droit international, mais qui est la doctrine Monroe, comme on l'appelle aujourd'hui, qui est essentiellement que les États-Unis promettent qu'ils vont pas faire interférence aux affaires européennes, ça a pris de l'expansion par la suite au reste du monde, pour dire on va pas se mêler des affaires du reste du monde si le reste du monde se mêle pas des affaires de ce qu'on considère chez nous. Puis chez nous, pour la doctrine Monroe, c'est l'ensemble des Amériques, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Alors, il faut commencer à comprendre ça. Les États-Unis, officiellement, encore aujourd'hui, c'est une doctrine qui n'a pas toujours été appliquée de façon parfaitement égale, mais qui n'a jamais été officiellement abandonnée par les États-Unis et que l'administration Trump fait renaître de façon très claire. Les États-Unis considèrent que l'ensemble de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, c'est leur cour arrière, sont les seuls qui peuvent faire de la géopolitique dans ce coin-là et que les puissances mondiales ailleurs que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud n'ont pas le droit d'aller faire de la magouille, d'aller jouer dans la géopolitique interne de cette région-là. Le Venezuela, ce qui se passe présentement, cadre parfaitement dans cette doctrine-là. Et on peut la comprendre aussi de la même façon que Trump qui parle du Canada comme 51e État, qui parle d'annexion du Groenland. Tout ça, ça cadre à l'intérieur de la politique très axée sur la doctrine Monroe de l'administration Trump. Alors, il faut commencer à comprendre ça. Les États-Unis considèrent que l'ensemble des Amériques, c'est à eux.
Couteau à double tranchant dans le contexte actuel, probablement un peu en protection avec Russie, Chine qui voudraient s'ingérer sur un territoire que pour Donald Trump et les États-Unis considèrent le leur. Mais en même temps, ça donne la latitude peut-être à un président de prendre un petit peu plus d'options sur ce qu'il y a sur sa table à manger depuis des années. Parce que dans ce cas-ci, il l'applique à 100%. Là. Mais ça peut être bénéfique et très négatif aussi.
Oui, ça a été appliqué de façon très différente par des administrations différentes. La doctrine Monroe, ça peut être l'ensemble des pays des Amériques sont nos amis et on les protège contre les gros méchants du reste du monde. Ça a été ça dans le passé. Je veux dire, le Canada l'a interprété de cette façon-là pour dire « Super, on est safe chez nous, on peut aller s'appliquer sur le monde international. »
Dis-moi, il n'y avait pas de coltaillage en deux idéologies, peut-être une qui est très différente de nos droits humains, là, nos droits personnels, versus à l'extérieur du monde, la Chine, la Russie, par exemple.
Exactement.
Tu sais, ça nous protégeait, ils faisaient leurs affaires, nous autres, on faisait
c'est
les
ça.
Nôtres.
C'est ça. Tant qu'on reste aligné aux États-Unis, ça va bien. Le danger, puis c'est là qu'on vit au Venezuela, c'est que le Venezuela n'était plus très aligné aux États-Unis. Puis là, on n'est pas obligé de remonter aussi loin. On peut remonter en 98. Avant 1998, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à à peu près la fin de 1998, il y avait essentiellement une très bonne entente entre le Venezuela et les États-Unis, au point où, je veux dire, certaines personnes pourraient dire que le Venezuela était un satellite des États-Unis. Le Venezuela, c'est aussi le pays au monde qui a le plus de ressources de pétrole confirmé. Alors, c'est à toute fin pratique, potentiellement la puissance pétrolière mondiale, le Venezuela. Pas tout exploité, mais l'était beaucoup à l'époque, à l'avantage des pétrolières américaines. Tout ça a commencé à changer au début des années 90, quand le prix du pétrole a commencé à baisser. L'économie du Venezuela était presque entièrement basée sur son exploitation de pétrole, largement au profit des pétrolières américaines. Avec la chute du prix du pétrole, les choses commencent à aller très mal. Et là, à la fin des années 90, à la fin de 1998, il y a l'élection d'un nouveau chef du gouvernement. Puis l'élection qui était généralement considérée comme légitime, l'élection de Hugo Chavez, qui lui amène le Venezuela dans une direction complètement différente. Il commence une politique de nationalisation de son pétrole. Il commence aussi, après son élection, beaucoup de réformes, appelons-les comme ça, démocratiques, pour, entre autres, lui donner beaucoup plus de pouvoir. Il fait changer la Constitution, il se donne des pouvoirs discrétionnaires très importants pour essentiellement devenir ce qui était appelé, généralement à travers le monde, en dans une décennie, un dictateur. Il est ultimement mort en 2013 et là, il y a eu une élection très chaudement contestée où c'est Nicolas Maduro qui a été élu. Cette élection-là, j'ai même reconnu, très, très proche. Il y a eu des contestations. Mais Maduro était un chaviste. Il continuait la politique d'Hugo Chavez. Il a continué les politiques de nationalisation. Et là, c'était très clair que lui, il s'alignait beaucoup plus vers l'OPEP, qui est l'organisme des pays exportateurs de pétrole. Dont les États-Unis ne font pas partie. Alors, l'OPEP est généralement vu comme un contrepoids international aux États-Unis. Le signal était très clair. Le Venezuela n'était plus l'ami des États-Unis. Ça continue jusqu'à ce qu'on arrive à la réélection, si je m'abuse, en 2018 de Nicolas Maduro. Réélection qui n'est pas reconnue par la plupart de l'Occident. Est reconnue par la Russie, reconnue par la Chine, reconnue par la plupart des pays de l'OPEP, mais pas par l'Occident. Donc, le Canada ne reconnaissait pas et ne reconnaît toujours pas Nicolas Maduro comme étant le président légitime du Venezuela. Il reconnaît son opposition comme étant la présidence sans pouvoir. Tout ça, ça mène à une réalité que les États-Unis essentiellement disent « on ne peut plus tolérer ». Parce que les États-Unis ne peuvent pas tolérer que dans leur cour arrière, il y ait la plus grande puissance pétrolière au monde qui risque de commencer à transiger du pétrole avec des opposants géopolitiques des États-Unis et encore pire, potentiellement pas le transiger en dollars américains. Puis ça, c'est quelque chose qui n'a jamais officiellement été lancé par le Venezuela, mais si le Venezuela commence à le faire, se rapproche un peu plus des BRICS, on sait que le Brésil est juste à côté quand même, et commence à transiger du pétrole avec des opposants sans utiliser le dollar américain, la puissance mondiale du dollar américain est à risque, et ça veut dire que la puissance mondiale des États-Unis est à risque. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on a vu dans les derniers mois, les États-Unis accentuer la pression sur le Venezuela. On commence à parler de trafic de drogue.
Un peu comme ce qu'on a vu dans nos impositions de tarifs aussi à la frontière. C'est encore la drogue qui est un petit peu le mot d'ordre du président pour camoufler autre chose.
C'est ça. On sait que l'administration Trump aime beaucoup utiliser le trafic de drogue pour se justifier des pouvoirs. Ça, c'est parce que selon les lois aux États-Unis, le président a énormément de pouvoirs discrétionnaires dans la lutte aux drogues. Alors, il utilise ça. Et c'est ce qu'on a vu, ça finit en ce qu'on a vu en fin de semaine, où les États-Unis ont envoyé des forces armées au Venezuela pour arrêter une personne qui était, rappelons-nous, selon la reconnaissance officielle des États-Unis, simplement un citoyen qui n'était pas reconnu comme le président, un criminel qui aurait violé les lois contre les drogues aux États-Unis.
Mais il n'était pas aux États-Unis, c'est là où ça devient touché. C'est le gars qui, aux yeux des États-Unis, comme tu le disais, un simple résident du Venezuela, tu vas le chercher au Venezuela, tu le ramènes aux États-Unis pour le juger aux États-Unis de crimes qu'il aurait commis au Venezuela.
Oui, c'est fou. Je ne peux pas dire autrement. C'est contraire aux principes assez fondamentaux du droit international. C'est pas la première fois que les États-Unis font quelque chose du genre. Puis il faut garder en tête que le droit international, il n'y a pas de police du monde. Alors, le droit international, ça ne vaut pas plus que ce que les puissants sont capables d'en faire.
C'est un engagement entre deux pays de dire on va le respecter, mais effectivement, tu n'as personne au-dessous d'eux.
C'est ça. C'est une espèce de code d'honneur entre les différents États qu'on espère que les gens vont le respecter parce que ça donne une certaine prévisibilité aux interactions internationales. Mais c'est contraire aux principes de droit internationaux qu'un pays ait arrêté quelqu'un dans un autre pays pour quelque chose qui est contraire aux lois du premier pays. Ça, c'est comme, mettons, là, la marijuana est illégale aux États-Unis. Mm-hmm. Mais ce serait-tu weird qu'il y ait des agents, des forces spéciales des États-Unis qui vous arrêtent en sortant d'une SQDC parce que ça veut violer les droits, les lois américaines contre le pot?
Parce qu'on se rend compte, là, je vais pousser l'exemple fictif au plus loin possible. On se rend compte que tu l'achètes à SQDC, puis par la poste, tu l'envoies aux États-Unis,
mettons,
puis tu fais la transaction.
Mettons. T'sais, c'est pas comme ça que le droit international est supposé fonctionner. Mm-hmm. Les États différents ont le droit de se faire justice en droit international, mais ça, normalement, ça passe par la coopération avec les autorités dans le pays où tu vas arrêter quelqu'un. si dans une situation comme c'est le cas, on s'entend là, c'est pas comme si la police du Venezuela allait arrêter son président.
Non, c'est ça.
Ben la chose à faire dans ce cas-là, c'est soit d'aller chercher une espèce de résolution internationale avec les Nations Unies ou quelque chose pour faire une opération militaire, ou faire une déclaration de guerre en bonne et due forme, dire ce pays-là est en train d'agir contre nos intérêts de façon nocive à nous, nous devons nous protéger, nous devons nous faire justice, nous déclarons la guerre et nous allons procéder à des opérations militaires dans un autre pays. Le problème, c'est que le président des États-Unis, selon la loi interne aux États-Unis, n'a pas le droit de déclarer la guerre. Le droit de déclarer la guerre appartient, selon la Constitution des États-Unis, au Congrès. Et le Congrès a seulement été informé de l'opération militaire après le fait. Là, encore une fois, c'est loin d'être la première fois qu'un président des États-Unis ordonne des opérations militaires dans un autre pays sans avoir l'aval du Congrès.
Parce que c'est de déclarer la guerre. C'est la... Lui, il doit dire que ce qu'il a fait, c'est pas de déclarer la guerre.
C'est ça. Il dit non, c'est une opération policière. On est allé arrêter un narcotrafiquant, comme on l'a fait dans le passé. Je veux dire, mm-hmm. ça a été fait en 89 au Panama avec un autre de facto chef d'État, un qui ne prétendait pas être élu, mais quand même. Et je veux dire, on peut même penser à, par exemple, l'opération contre Osama Bin Laden, qui était mm-hmm. au Pakistan, un pays souverain qui a été fait sans l'aval du gouvernement pakistanais, au moins officiellement. C'est le genre de choses que les États-Unis font régulièrement. D'autres pays le font aussi, mais c'est contraire au principe de droit international. Et dans le cas des États-Unis, ça soulève toutes sortes de questions sur ben, qu'est-ce que ça veut dire une déclaration de guerre. Il n'y a pas de définition officielle dans la Constitution des États-Unis. Et généralement, par le passé, il y a beaucoup de présidents qui sont livrés à des opérations militaires en disant non, ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est juste une opération policière pour le bien des États-Unis.
Deux questions pour toi. La première, est-ce que c'était légitime de faire tomber le régime de Nicolas Maduro?
C'était un des objectifs de l'ensemble ou presque l'ensemble des pays occidentaux de changer le régime Maduro. C'était la position officielle du Canada depuis plusieurs années aussi, depuis plusieurs pays de l'Europe. Mais c'était pas la position de ces pays-là de le faire par une opération militaire. L'objectif était plutôt de le faire par une entente négociée, peut-être sous pression de sanctions. Il y avait des sanctions contre le Venezuela qui étaient appliquées par plusieurs pays. Mais généralement, on préfère procéder de cette façon-là parce qu'on s'assure que on ne procède pas à une espèce de décapitation du pouvoir, un vide de pouvoir qui peut après ça être pris en contrôle par quelqu'un d'autre, clairement présentement
quelqu'un
l'objectif
qui pourrait être
les
plus
États-Unis.
Dangereux que Nicolas Maduro aussi
oui,
à
aussi.
L'interne.
Et pour essayer de s'assurer que justement le changement vienne de forces, on l'espère, démocratiques de l'intérieur du pays pour que ce soit un peu plus stable. Mm-hmm. Évidemment, il y a toutes sortes d'opérations clandestines qui peuvent se faire, des appuis à un groupe ou un autre à l'intérieur de ça. Je ne veux pas me lancer là-dedans, mais la position officielle de la plupart des pays de l'Occident, sauf apparemment les États-Unis maintenant, c'était qu'on voulait que le régime change suite à une procédure interne au Venezuela.
Ma deuxième question, tu parlais de la doctrine Monroe tout à l'heure. Faut-il craindre au Canada? Faut-il que le Danemark craigne pour le Groenland? Parce que si on se fie à la doctrine Monroe, l'Amérique appartient aux États-Unis et Donald Trump peut s'emparer de territoire.
Quand on parle justement du droit international, il y a beaucoup de gens qui disent le droit international, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de police du monde. Puis je veux dire, je comprends un peu cette position-là, mais il faut voir le droit international comme une espèce de code non écrit que tant que tout le monde respecte les normes, il y a une prévisibilité. Tu sais comment les autres pays vont agir ou réagir dans certaines situations. Quand les États-Unis commencent à faire des choses du genre, le signal qu'ils envoient malgré eux au reste du monde, c'est « ouais, nous, on respecte plus ces règles-là ». Alors, les autres pays du monde sont obligés de dire « ben, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient ». Et c'est pour ça que ce n'est pas une bonne idée, même si M. Maduro était, de toute évidence, selon les informations qu'on avait, un dictateur, quelqu'un qui causait un tort énorme à son peuple. Si demain matin, vous êtes le président de l'Iran, ou vous êtes le président de la Russie, le président de la Chine, ou même du Danemark ou du Canada, vous savez que les États-Unis considèrent que, ouais, on peut n'importe quand rentrer chez vous, vous enlever par des hélicoptères, vous rentrez dans une prison à Brooklyn, puis vous passez devant nos juges, devant nos tribunaux pour vous envoyer en prison à vie chez nous.
Selon nos accusations,
selon nos accusations.
Qu'on décide avec probablement le suivi d'une accusation qui est quand même très haute, là, ouais. Qui pourrait être assez fatale. Là,
alors, si vous êtes le président, le chef d'État d'un pays, d'un n'importe quel autre pays, comment vous êtes supposé faire confiance aux ententes négociées de paix ou des ententes commerciaux ou des ententes de stabilité géopolitique mondiale avec les États-Unis quand vous savez qu'ils se sentent confortables à faire ça ouvertement devant la planète au complet,
c'est
d'aller chercher vos enfants.
C'est super sensible. Puis, tu sais, ça, c'est un point qui est difficile à discuter en ce moment parce qu'on voit qu'il y a une grande fracture juste au Canada. Au Québec, le monde commence à s'obstiner depuis l'opération en disant, ben voyons donc, vous êtes contre le fait qu'on vient de libérer un peuple, vient de créer du bon pour eux qui va avoir...
C'est excellent ce que tu dis.
Puis, tu sais, assurément, c'était un chaos... malheureusement, avec Maduro, mais qui était quand même organisé. Et ça menait probablement à un changement sincère à l'interne et qui allait se positionner comme quoi on allait faire tomber à un moment ou à un autre, mais par nos propres moyens, le plus possible au Venezuela. Mais on allait garder notre entité. Là, ça ouvre la porte, effectivement, à n'importe quelle opération armée organisée de la part des États-Unis. La porte est rendue ouverte. Puis ça, ça crée un malaise puis même une problématique à l'international. Puis en ce moment, dans les discussions, là où le monde se pogne, c'est de dire, ben voyons, il vient de libérer un peuple. Il y a cette capacité-là, Trump, d'amener des éléments tellement importants qui pourraient légitimer n'importe quelles actions si on prend juste une des sphères de ce qui s'est passé avec Donald Trump et Maduro. Puis ça, je trouve ça tellement sensible parce qu'après, il y a les gens, ils ferment leurs œillères, restent concentrés sur « ben non, on vient de libérer un peuple » et ça s'obstine et ça fractionne même, pas le peuple américain, les autres peuples dans le monde.
Mais ça fractionne notre capacité à résister à ce genre de choses-là. Si ça arrive un jour chez nous, je ne dis pas que ça va arriver, mais tu as parfaitement raison. Et c'est pour ça que j'ai commencé en disant qu'il ne faut pas essayer de voir ça dans une espèce d'optique de des bons et des méchants. C'est entièrement possible que Nicolas Maduro était un très mauvais chef d'État, était un dictateur, était quelqu'un qui faisait souffrir son peuple.
Quand on regarde les faits, là, puis les années de souffrance, on peut même le confirmer.
T'sais. Oui, c'est pas incompatible arriver à cette conclusion-là et aussi arriver à la conclusion que l'opération militaire des États-Unis de la fin de semaine soulève des inquiétudes très, très sérieuses pour le reste du monde et aussi pour le peuple vénézuélien. Parce que c'est pas parce que tu as remplacé un terrible dictateur que nécessairement, quand les pétrolières des États-Unis vont arriver, puis quand l'administration Trump va arriver, puis quand la vice-présidente, qui est elle aussi une chaviste, disons-le, va coopérer avec les États-Unis, ça va être dans le meilleur intérêt du peuple vénézuélien non
triste.
Plus.
C'est triste à voir parce que, automatiquement, les gens, en ce moment, là, s'accusent de ne pas être assez intelligents, de ne pas comprendre quelque chose. C'est complexe, là.
Ouais.
C'est extrêmement complexe. Moi, j'ai peur que ce qui se passe en ce moment, dans les commentaires puis dans les débats qu'on voit sur les réseaux sociaux majoritairement, ça crée une ouverture à encore plus nous diviser face à ça. Puis pas avoir une position puis une capacité puis de se faire juste pointer du doigt. Mais toi, t'es pas assez intelligent, tu comprends pas qu'il y a le droit international en dehors de ça. Non, c'est toi qui n'es pas assez intelligent de comprendre qu'il vient de libérer un peuple. Ça t'inquiète-tu, toi, de voir qu'en arrière de ça, qui est déjà très gros, il y a d'autres petits problèmes, des dommages collatéraux qui se créent aussi, qui vont peut-être aider des genres d'interventionnisme dans le monde par des gens qui ont une conquête économique?
Ça m'inquiète pas pour notre cohésion sociale en général parce que je sais que ce genre d'argument-là représente quand même quelque chose de plutôt marginal dans la vraie vie. T'sais, la plupart des gens qui laissent des commentaires du genre, c'est 1 ou 2 % de la population. Là où ça m'inquiète, par exemple, c'est que ce genre de fracture sociale-là, de division interne, c'est le genre de choses qui peut très facilement être exploité par des forces étrangères. Puis là, c'est pas juste les États-Unis, là, je veux dire, par des toutes sortes de forces géopolitiques ailleurs au monde, la Chine, la Russie. L'ingérence internationale contre notre cohésion sociale, elle se cristallise autour de ce genre de choses-là. C'est des gens qui peuvent pointer à ces commentaires-là puis dire « Regardez comment ils sont divisés. » Et après ça, ils vont appuyer certaines positions. On sait, je veux dire, moi, j'en doute plus. Là, il y a des bots partout sur les médias sociaux qui sont là précisément pour mousser ce genre de fracture-là pour que éventuellement l'opinion publique soit tellement divisée que politiquement, le Canada soit incapable d'agir. Qu'on soit tellement divisé entre nous qu'on ne soit pas capable d'arriver à une position claire et forte, qu'on ne soit pas capable de se concerter avec d'autres alliés qui veulent aussi, eux aussi, avoir des positions claires et fortes, mais qui ne sont pas capables de le faire parce que leurs populations sont divisées. Ce qui fait qu'on est tous un peu à la merci des individus, des puissances mondiales qui, eux, sont organisées, sont capables d'appliquer leurs moyens contre nous.
En terminant, Farnell, là, Nicolas Maduro va passer en cour du côté des États-Unis dans les prochaines heures. Un acte d'accusation, je pense que c'est 25 pages, où il y a entre autres narcoterrorisme, un paquet d'affaires en lien avec la drogue. Qu'est-ce qui va se passer? À quoi on s'attend? Il va être condamné? Puis, parce que comme on le disait, c'est quasiment préparé d'avance. Puis...
La première étape d'une procédure du genre, c'est surtout administratif. Il va passer devant un juge qui va probablement, je veux dire, on peut rentrer dans la technicalité, son avocat va demander la lecture des actes d'accusation ou probablement pas. Et puis, M. Maduro va retourner en prison et les démarches officielles qui vont mener à un procès éventuel vont commencer. Ça peut être plusieurs mois à partir de là. Et c'est dans tous les intérêts des États-Unis de s'assurer que ça prenne le plus de temps possible pour avoir cette espèce de pion-là en leur contrôle sur le grand échiquier mondial. Alors, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des grands rebondissements aujourd'hui. Je pense que ça. Il va passer devant un juge, on va avoir la lecture des actes d'accusation et ça va mener à une longue période où on n'entendra plus parler, on ne le verra plus. Il va être disparu dans la prison à Brooklyn.
Farnell Morisset, on est chanceux de compter sur toi ici à Boulevard 101. Tu es un excellent vulgarisateur d'actualité. Tu es un juriste dans l'État de New York. C'est sûr qu'on va te reparler du dossier de Nicolas Maduro au courant de l'année 2026. En attendant, bien, on se voit vendredi. On en jase, débat. Farnell Morisset, Lambert Drinville.
Oui, j'ai déjà hâte.
Excellent. Je te souhaite une excellente semaine, mon ami.
Merci. Bonne année à tout le monde.
Merci. C'était Demandé par texto. C'est le Pit Stop avec Denis Gravel qui suit après cette courte pause. On va notamment revenir avec un dossier un petit peu plus terre à terre ici au Québec. Le vouvoiement obligatoire dans les écoles. Ah ouais. Est-ce qu'un ticu de 5 ans va devoir dire à son enseignante « vous » il va pouvoir encore l'appeler Christina, par exemple, pour créer le lien de proximité? On parle de ceci avec Denis Gravel après cette courte pause à Boulevard 101. Vous écoutez Marceau le matin.
Marceau le matin. Marceau.